Donc nous allons parler aujourd'hui, nous allons échanger sur le livre de Vincent Liéget, aux éditions Tana, un livre qui s'appelle « Décroissance », qui est écrit en collaboration avec Isabelle Brockmann.
Je l'ai en main. C'est moderne dans la présentation, c'est coloré, c'est joyeux, limite enfantin. C'est divisé en pas mal de chapitres, donc qui présente Vincent Liéget, donc il y a le pourquoi la décroissance fait-elle peur, des chiffres sur l'économie mondiale, la croissance, quelle croissance, l'envers de la croissance, on pourra essayer la croissance verte, comment faire sans croissance, imagine la décroissance, la décroissance mode d'emploi et une conclusion. Moi j'ai eu du mal à lire parce qu'en fait c'est si vous connaissez Liéget, ses interventions en podcast, à la télé ou si ou ça, c'est un peu la même chose, à rajouter un peu de statistiques. Donc on a l'impression de, enfin moi personnellement j'ai l'impression de connaître le texte avant de le lire, plus ou moins. Voilà, je dirais que c'est une introduction à la décroissance pour les nuls, de mon point de vue.
Voilà, oui, mais ça fait longtemps qu'il est libre pour le grand public, hein.
Ouais.
C'est le fruit de tout son travail depuis le début, qu'il y a mûring et machin, et qu'on n'est pas, le public visé, c'est sûr.
Voilà, ouais. Donc oui, c'est didactique, c'est une introduction à la décroissance. De mon point de vue, voilà. Ensuite, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu?
Oui, alors, moi je l'ai lu. Oui, je confirme tout ce que tu viens de dire. Ça ressemble à la série pour les nuls. Hein, il y a aussi une similitude dans la mise en page qui rappelle cette série. Mais je dirais que là, c'est plus que pour les nuls. Je dirais que c'est pour l'école primaire. Voilà. Alors, c'est la décroissance. C'est la décroissance façon Liéget. Hein, attention, hein, c'est explication de la décroissance à l'école primaire en CM2 façon Liéget. Alors, je suis rentré dans le. Bon, j'ai relevé certains points qui me paraissent emblématiques. Hein. Tout d'abord, à la page 9, il dit le concept de décroissance ne date pas d'hier. Il date de 1972, le rapport Meadows. Oui, enfin, il date surtout de 1970 de Nicolas Georgescu Roegen. Alors, c'est un petit peu surprenant parce que Vincent avait fait un interview de Jacques Greenwald, qui est dans les jardins du Sénat, d'ailleurs, de Jacques Greenwald, qui est traducteur de Roegen. Et donc, il ne l'a pas repris. Alors, il le reprend un peu plus loin, Roegen, bon, j'en parlerai. Mais enfin, il fait démarrer la décroissance par le rapport Meadows. Bon, c'est une différence déjà avec nous, avec moi en tout cas, c'est que je vais démarrer la décroissance avec Roegen, mais effectivement aux alentours de 1970, à l'époque où il a finalisé donc ces bouquins et dont Greenwald a tiré le résumé de la décroissance, mais il avait déjà écrit The Entropy Law, Economic Process. Bon.
Il ne le fait pas démarrer dès Luddite.
non, ça c'est Ariès qui fait démarrer dès Luddite.
Ah, c'est
Ariès, oui. Voilà. Bon, alors, ensuite il fait l'historique, le mot réapparaît en 2002, il y a un collectif, il y a les casseurs de pub, etc., etc. Et puis alors, je bloque tout de suite après, il dit, 50 ans après leur apparition, les idées portées par la décroissance ont gagné du terrain, en particulier ces 5 dernières années, auprès des plus jeunes. Alors 50 ans après, c'est vrai. 50 ans après, c'est un demi-siècle, effectivement, voilà. Mais, et 69, 68, 69, 70, c'est, faut pas l'oublier, après mai 68. Et après mai 68, on est une palanquée, à mon avis, plus importante que le mouvement qu'il y a actuellement, qui a quitté la société de consommation, qui est retournée à la terre. À l'époque, on a appelé ça des hippies, etc. Bon, mais 50 ans après, les idées portées par des croissances ont gagné du terrain, non! C'est le contraire, elles ont régressé.
Il dit les idées ont gagné du terrain. Ils n'ont pas dit, il n'a pas dit les idées ont gagné le terrain.
Ont gagné du terrain. Non, elles ont perdu.
Elles ont terrain, c'est juste l'activité.
Elles ont perdu du terrain. Elles ont perdu du terrain. C'est-à-dire que, à l'époque, en 1968-70, il y avait vraiment une lame de fond de gens qui rejetaient vraiment la société de consommation, qui rejetaient le nucléaire, qui faisaient des marches antinucléaires sur Buget, etc., Fessenheim et compagnie. Bon, aujourd'hui, ben, on a quoi ? On a des bobos dans les villes qui mangent bio. Voilà. Et parallèlement, ça c'est, bon, ça c'est des, on va dire, c'est des interprétations subjectives, mais je vais passer cette fois aux chiffres. Hein, c'est qu'en 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, les courbes de prédation des ressources naturelles a continué à augmenter. La courbe du PIB a continué à augmenter. La courbe de la démographie a continué à augmenter. Les écarts de richesse entre les plus pauvres et les plus riches n'ont cessé de croître. Donc, il s'est passé exactement le contraire de ce que dit Liégeais. C'est-à-dire que la croissance, elle est radieuse, la croissance a ainsi son pouvoir, et la quasi-totalité des gens sont tout à fait contents de la croissance. Donc c'est exactement le contraire que ce qu'il dit. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous disons que l'idée d'une décroissance volontaire, qui soi-disant est quelque chose qui progresse, dans la société civile, eh ben c'est pas une idée qui progresse, une idée qui est extrêmement groupusculaire et minoritaire, et que la décroissance, c'est quelque chose qui arrive de par les lois de la physique. Ah, bon, alors il dit quand même, alors peut-être je peux m'arrêter parce que sinon je vais faire, ça va durer. Ça, bon, j'ai relevé 12 points, j'ai relevé 12 points dans son livre. Bon, ça c'est le premier qui me paraît d'ailleurs le plus important. Donc je peux peut-être m'arrêter pour échanger avec les autres. Après il y a d'autres points.
Alors moi j'ai pas lu le livre, hein, mais bon, ce que m'inspire vos commentaires, c'est que bon, que ce soit la décroissance pour les nuls à la limite, moi ça me dérange pas, ça peut être utile dans le spectre de lecture qu'on peut viser, le spectre de lecteurs en tout cas qu'on peut viser, de dire voilà, il faut aussi des choses simples, que ce soit des bandes dessinées ou des argumentations, on va dire, assez basiques pour parler à tous, je dirais pourquoi pas. Après, ce qui manque un petit peu, peut-être pour approfondir et faire que, du coup, que la décroissance gagne du terrain, notamment dans le domaine des économistes ou des sciences dures, c'est ce qui manque dans le paysage, mais là c'est indépendant du travail de Liégeais, c'est une traduction des travaux de Reugen. Alors s'il y a une tentative de synthèse effectivement à travers le livre traduit par notre ami suisse, là il manque quand même un travail systématique sur l'ensemble de l'œuvre de Reugen, qui a écrit en anglais majoritairement et qui n'est pas traduit en français. Et voilà, enfin bon, c'est périphérique au sujet d'aujourd'hui, mais ça pourrait être utile, voilà. Enfin, nécessaire en tout cas. Si Christian, t'as d'autres points de vue sur le livre, peut-être tu nous en parles
du coup. J'avais quelque chose à dire. Effectivement, l'idée de présenter, on va dire, la décroissance d'une certaine manière, que je pourrais dire pédagogique, je pense que c'est toujours une bonne idée, si l'idée est présentée. Mais effectivement, en ce qui concerne la décroissance, j'aime bien, en fait, introduire un peu de précision par rapport à la décroissance. Parce que ça peut être utilisé dans différents cadres. Donc, d'une part, déjà, dans le fait que la décroissance en fait peut intervenir dans le cadre où les ressources sont en train de chuter, où vu que les ressources de l'environnement sont surexploitées, alors les ressources diminuent, et comme les ressources diminuent, ça signifie en fait que l'économie derrière va se casser la gueule pour différentes raisons, déjà parce que les ressources diminuent, mais aussi à cause de la pollution, des rejets en CO2 et des changements climatiques qui entraînent des incidents. D'un autre côté, effectivement, bon, l'idée qui est défendue par, dans le Parti pour la croissance, c'est qu'effectivement, il est nécessaire, en fait, justement, de réduire drastiquement l'impact de l'être humain sur l'environnement pour pouvoir, en fait, échapper justement à cette... pour échapper, en fait, en partie à cette décroissance, mais surtout pour échapper, en fait, aux effets qui s'appliquent déjà, en fait, sur les êtres humains, tels que la sécheresse, tels que, effectivement, la destruction des habitats qui sont en fait des conséquences très, très importantes. Mais pour moi, effectivement, je pense qu'il est important de bien le montrer, de bien le démontrer de manière pédagogique, parce que je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. C'est ce que les médias ne montrent pas.
Si, les médias montrent ça tout le temps. Alors, ce que tu décris, Hugues, oui. On est bien d'accord, c'est les atteintes à l'environnement, les atteintes à tout ce que tu veux, le réchauffement climatique créé par la croissance. Et que il faut alerter les gens pour qu'on arrête ça et pour décroître. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Le problème, c'est comme contrairement à ce que dit Liégès, ça fait 50 ans qu'on dénonce la croissance et ça fait 50 ans que la croissance augmente. Bon. Et que tous ces discours sur « il faut décroître » sont des discours extrêmement sympathiques. D'ailleurs, individuellement, on peut décroître. Individuellement, dans ton coin, tu peux te mettre à être sobre et à manger que certaines choses et à n'acheter que certaines choses. Il n'y a aucun problème. Notre civilisation capitaliste, croissanciste, nous permet de faire ça. Bon, mais d'un point de vue collectif, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. On en a la preuve flagrante. Donc, il faut arrêter de croire que lancer ces alertes, ça va faire décroître. Et justement... moi, je trouve sympathique que Liège ait fait ce livre, mais il pense que c'est didactique. Un livre didactique qu'il faudrait faire, que je ferais, moi, ce ne serait pas celui-là, ce serait expliquer aux gens que ça fait 50 ans qu'on fait le scanner de la croissance et que ça ne fonctionne pas. La seule chose qui va fonctionner, c'est la réalité qui va arriver devant les yeux de tout le monde. De la pénurie, et de la réduction des disponibilités en matière énergétique et matière minérale. Voilà, c'est ça la question. La question, c'est que tous ces travaux, ces prêches, en quelque sorte, prosélytes, ne débouchent sur rien. Voilà. Bon, alors là où il y a une contradiction, je reviens quand même au livre de Liégès parce que on peut parler à bâton rompu sur la décroissance, mais ce qui est pas intéressant, c'est de voir ce petit memento, le memento du petit décroissant, puisque à la fin il y a même un quiz. Est-ce que vous êtes décroissant, la note du décroissant? Donc on répond à un certain nombre de questions et puis on voit comme ça, suivant la note qu'on a obtenue, si on est bon décroissant ou pas bon décroissant. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il se contredit tout le long. Alors déjà, j'ai signalé une première contradiction de taille, c'est-à-dire ce qu'on dit, ça prend de l'ampleur. Ben non, ce que tu dis, justement, personne ne le suit. Alors ensuite, il se contredit puisqu'il dit l'économie, c'est avant tout de la physique. Alors là, il parle, donc c'est page 27, il parle de Nicolas Georgescu-Roegel, quand même, bon, les théories économiques dominantes qui sont enseignées dans les lycées. Oui, voilà, puisque c'est de la physique. Bon, la physique démontre, hein, la loi de l'entropie, elle démontre que la société capitaliste croissanciste, enfin la société croissanciste, contient en elle-même le ferment de son extinction. Bon, donc il n'y a pas besoin de faire décroître, puisque la croissance elle-même, c'est quelque chose qui fait décroître. Le fait de croître, ça fait décroître. Bon, ensuite, page 57, il continue à se contredire, puisqu'il nous explique de façon très très exacte le problème du découplage. Alors le découplage, bon, j'en ai beaucoup parlé là, dans mes vidéos sur le PIB. Le découplage, il dit, il n'aura jamais lieu. Le découplage, c'est croire qu'on va pouvoir continuer à augmenter le PIB... hein, sans avoir de ressources naturelles. C'est-à-dire avec une courbe, jusqu'à présent, on a une homothétie de la courbe de consommation des ressources naturelles finies et du PIB. Ces deux courbes qui sont homothétiques. Bon, le mythe du découplage qui est entretenu par un certain nombre d'économistes croissancistes, c'est de dire, vous inquiétez pas, même si on a donc une diminution des ressources naturelles, le PIB il continuera à croître. Alors ce découplage n'aura jamais lieu. Oui, bon, Eugen d'ailleurs l'avait imaginé, il avait dit que c'était une absurdité. Bon, le découplage n'aura jamais lieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance va s'arrêter. Il le dit. Bon, alors donc c'est pas la peine qu'on l'arrête puisque ça va s'arrêter. Ensuite, page 59. Il dit passer de la croissance à la récession et à son cortège de désastres sociaux. Est-ce inéluctable? Non. Et la décroissance qui anticipe le passage à une société partagée est une alternative. Nous avons le choix. On a le choix de quoi? Le choix, c'est-à-dire que si on laisse faire, donc là il se contredit encore, si on laisse faire, ben, la croissance va s'arrêter. On a le choix, c'est qu'il faut, on va l'arrêter nous-mêmes. Alors bon, là, on commence à rentrer dans la logique du décroissant façon du croissant volontaire, c'est que si on arrête la croissance nous-mêmes, ça va être la joie de vivre. Alors que si on se laisse récesser, bon, ça va être le chaos. Alors, ça arrive tout de suite, parce qu'une page après, il dit « La récession est un accident, page 61, la récession est un accident tragique dans une société en croissance, elle n'a rien à voir avec la décroissance. » On y voilà, on y voilà. Bon. La récession, alors, pourra-t-on échapper à la récession? Non, on ne pourra pas échapper à la récession. Donc, il faut récesser nous-mêmes, il faut décroître nous-mêmes, parce que ça sera joyeux. Voilà. Bon. Alors ça, on retrouve ensuite l'analyse du bonheur. Hein. On ressort le truc du Bhoutan, où ils ont fait un PIB qui est évalué à partir d'autres critères que celui aujourd'hui de l'INSEE. Voilà, donc l'objectif, on le voit bien, c'est de décroître pour atteindre le bonheur. Bon, on est vraiment dans une idéologie, une sorte de religion, et finalement une argumentation qui ressemble à un prêche d'église. Voilà. Alors, il faut mettre en place une nouvelle économie, donc page 64. La nouvelle économie, l'enjeu de la décroissance de façon liégée, consiste justement à reprendre en main l'économie pour privilégier le bien-être plutôt que le profit. Alors, c'est voilà l'exemple type de phrase creuse. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre en main l'économie? Bon, alors, est-ce qu'il y a derrière une liste de mesures concrètes? Non, c'est des idées comme ça, en l'air, ce genre de prêche. On va reprendre en main l'économie pour privilégier le bonheur plutôt que le profit. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pour des enfants de CM2, donc il faut leur parler comme ça. Alors, ensuite, il y a l'idée, bon, on arrive page 71, on a l'idée que la décroissance, c'est pas un truc qui se fait tout seul, la décroissance façon liégée, c'est un truc qui se fait en groupe. Hein. Dans une société sobre, on doit partager les charges, les corvées et les contraintes. Donc, on rentre là dans une espèce de scoutisme, hein, le scoutisme décroissant, c'est-à-dire que on va se mettre tous ensemble, on va décroître tous ensemble, on va se partager les contraintes, les crevettes. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de ça, peut-être que tout le monde n'a pas envie d'avoir une vie sobre et de vivre en collectivité. Après tout, c'est ce que faisaient les hippies. Enfin, ils ont fait des communautés où ils vivaient nus, etc. Voilà. Bon. Pour les décroissants, tous les prétextes sont bons pour finir la journée en apéro collectif ou en grande tablée improvisée. Voilà. Donc, je cite, on est dans l'esprit hippie des années 69. Ah, bon. Alors, là, on arrive ensuite à la contradiction, une des contradictions, disons, endémiques, congénitales des décroissants façon liégée, c'est, page 92, la bombe démographique. Voilà. Alors, la bombe démographique, c'est pas une bombe. La démographie. Démographie, il n'y a aucun problème. Il serait possible, alors, on reprend, là il n'a pas repris Ziegler, hein, qui avait dit on peut nourrir tout le monde. Non, il prend Olivier de Schutter, qui est un exégète de Ziegler. Il dit en revanche, je cite, il serait possible, comme le rappelle l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies, heureusement qu'on les a pour nous expliquer ce qu'on doit faire, hein, sur le droit à l'alimentation, Olivier Tschutter, bien connu, de nourrir et de donner des conditions de vie dignes, de manière soutenable, voire régénératrice, pour le pic de population de 11 milliards. Donc aucun problème. Aucun problème si on décroît, on fait de l'agriculture biologique, l'attraction animale, hein, plus de pétro-agriculture, plus d'herbicides, plus de pesticides, plus de fongicides, plus de traitements phytosanitaires. Bon, j'ai 15 ans d'exploitant agricole. Ici, nous avons Yves qui est agriculteur. Donc, je crois qu'on sait un petit peu de quoi on parle. Voilà, alors on va nourrir 11 milliards de personnes avec une agriculture sans pesticides, sans engrais chimiques et en traction animale. Voilà, donc on est dans le prêche qui plaît. Le problème de cette affaire, c'est que ça plaît. Il est évident que si on fait une conférence sur l'alimentation, par exemple, on va dire qu'on ne pourra pas nourrir 10 milliards d'êtres humains avec une agriculture privée sans pétrole, et qu'à côté, on a par exemple M. Marc Dufumier, ingénieur INRA, et accompagné de José Bové. Je n'invente pas, je les ai vus ensemble au salon Prime Vert à Lyon il y a quelques années, dire il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec la permaculture, on va pouvoir nourrir 70 millions de Français et 15 milliards d'êtres humains. Bon, alors évidemment, ce sont des choses qui plaisent. Les gens, ils préfèrent entendre ça que entendre que ça va pas être possible. Et voilà le problème. Le problème, c'est que dire qu'on va pouvoir décroître et que ça va nous donner en plus la joie de vivre, c'est quelque chose qui fait vendre, c'est quelque chose qui, disons, développe la militantèle, alors que si on a le souci d'une juste analyse et qu'on dit simplement la vérité, on a des problèmes de quantité d'auditeurs. Voilà.
C'est tout à fait possible de le faire. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il faudra que tout le monde soit derrière la binette avec un pouvoir d'achat équivalent à 500 balles par mois pour chacun. Après, c'est possible.
Non, on ne pourra pas être 11 milliards.
Si tout le monde est derrière la binette, on peut y arriver et pas manger pas trop de viande.
Mais c'est
une partie du discours qui est occultée.
Non, mais on entre dans le cœur du réacteur, là, ce que tu dis. C'est très intéressant parce que une société rurale, hein, disons, essayons de mettre une image dessus, c'est quoi? C'est la fin du 18e siècle. Voilà.
Ouais, ouais.
Parce que finalement, depuis le néolithique, la révolution néolithique, jusqu'à Louis XIV, la progression, si on regarde le sinus des fameuses trois courbes de la prédation des ressources naturelles finies, de la démographie et du PIB, il est pratiquement égal à 1. Donc on a quasiment quelque chose qui est durable. Qui n'est pas éternellement durable, mais qui peut durer encore 10, 20 ou 30 siècles.
Oui.
Bon, mais avec combien? Bon, la France, elle avait 20 millions d'habitants. Et on était bon, sur la Terre, il y avait 1 milliard. En fait, le schéma où on n'utilise que du renouvelable, où on a une économie qui est essentiellement basée sur l'autosuffisance alimentaire, c'est une économie qui ne permet pas une occupation de plus d'1,5 milliard maximum sur la planète. Il faut qu'un jour on dise, qu'on donne ces chiffres. Sinon, voilà, on a des bouquins comme ça qui vont circuler dans les CM2 et les gamins qui ont envie de penser à autre chose sur la croissance, ils vont s'imaginer qu'on va pouvoir avoir une société radieuse avec la binette et être quand même 11 milliards. Or ça, c'est vraiment impossible. C'est plus qu'une imposture, c'est, disons, un propos toxique.
Non, c'est voulu, s'ils le savent, ils sont pas bêtes, ils ont fait les calculs, ils le disent en privé, c'est juste qu'ils veulent pas aborder le problème du débat démographique, parce que ils ont déjà essayé dans leur vie passée sur le réseau, ils ont testé, ça passe pas. N'importe quel, voilà. C'est pas un débat qui passe, qui après on fait un livre que pour être invité à la télé, donc et pour passer dans certaines obédiences, donc il y a des thème qu'il ne faut pas aborder. Voilà. C'est une manière de ne pas aborder ce thème.
C'est du marketing. Alors, deux exemples. Deux exemples pour abonder dans ce que tu dis. Premier exemple, Vincent Léger, un interview que j'ai fait en 2014. Je vous donnerai le lien et la minute. Je lui demande, vous qui avez, pourtant, qui venez de dire que vous êtes venu à décroissance par les travaux de Rogan, de la thermodynamique, etc., pourquoi ne parlez-vous pratiquement pas du pic pétrolier dans les conférences du PPLD ? Réponse Vincent Léger, parce que nous nous sommes rendus compte que ça faisait fuir les militants. Deuxième exemple, il y a deux ans, j'invite Vincent Chenet à présenter le livre de la décroissance qui s'appelle Le programme a tué. Le programme a tué, ER. Donc finalement, il se demande, il envoie un de ses sbires. Nicolas Souchet, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et donc, après la conférence, on est allé bouffer avec Souchet, et je lui ai dit, pourquoi est-ce que dans le journal La Décroissance, vous ne parlez jamais de la démographie ? Il m'a dit, ah, c'est interdit, c'est sujet tabou, Vincent Genet ne veut pas qu'on en parle, parce que dès qu'on en parle, ça fait baisser les ventes. Voilà, bon.
En fait, ce qui est marrant, voilà. Et c'est puis, que alors, ça va te tirer une balle dans le pied, parce que, en effet, je les ai vus, moi, se poser ce problème-là, mais il fallait juste qu'ils tiennent bon, qu'ils attendent, parce que leur discours va être de plus en plus inaudible, mais par contre, les pénuries, le prix cher, la fin du pétrole et la démographie, ça commence à être des sujets que tout le monde, quel que soit son rapport à l'histoire, commence à en parler dans les dîners. Donc, ils sont en contre-temps, en fait.
Oui, ben ça, c'est leur problème, c'est qu'ils ont. C'est un défaut de courte vue. Hein. Bon, la décroissance, façon anthropique, moi, je considère qu'elle a déjà commencé. C'est-à-dire que, vous avez vu, je recalcule le PIB en prenant, en incorporant les provisions, les variations négatives de stock et puis les provisions environnementales. On a un PIB qui a commencé à diminuer depuis un certain nombre d'années. Alors, non, ça ne se voit pas parce que l'INSEE le calcule autrement. Et ça ne se voit pas également parce que la machine à fabriquer de la fausse monnaie fonctionne. Mais la décroissance, au niveau du calcul précis, la décroissance a commencé. Les gens ne le voient pas. Bon. Donc on y est. C'est pas la peine de dire il faut décroître. On y est. Le déclencheur, la bascule, ça va être le moment où les gens vont s'en rendre compte. Et c'est pour ça que nous, ce que nous devons dire, c'est nous devons être prêts pour ce moment-là. On doit se préparer pour ce moment.
Quand tu dis la décroissance a déjà démarré, les indicateurs le disent, là tu parles à l'échelon national, ou à l'échelon mondial ?
Oui, à l'échelon mondial, bien sûr, à l'échelon mondial, bien sûr. Oui. Tu prends mon bouquin L'impasse de la croissance, je recalcule le PIB avec des chiffres. Alors, c'est sur l'exemple de la France, hein, puisqu'on a les chiffres de la France, mais il y a des calculs qu'on peut extrapoler sur l'ensemble de la planète.
Bon, après, sur l'argument que j'ai entendu là dans les échanges sur l'idée que bon, les idées pourraient être creuses et moi je suis tenté de dire bon, qu'elles sont peut-être un peu limitées ou qu'elles ne vont pas effectivement au fond des. On n'en tire pas les conclusions qu'il faudrait tirer de certaines affirmations. C'est-à-dire que les raisonnements ne sont pas forcément poussés tout au bout. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément faire un procès d'intention sur ce qui est dit là. C'est partiel, ça peut être partial aussi, ça peut être limité, mais bon, ça a le mérite d'exister, de faire parler de.
Alors, mais c'est ça le problème!
Si après vous jugez que c'est contre-productif.
Oui, parce que. différent, mais ça dit pas que ça va être inégoutable pour tout le monde et que les gens achètent ça en disant oh, mais ça c'est un problème de bobo parisien. C'est ça. C'est vu la couverture, vu la com, vu dans quel média il passe, si ça fait livre d'écolo vert, écologie les verts, mais la France décroissante parisien, voilà, ça, que décroissant égale ça, c'est ça le problème.
Eh oui, c'est ça le problème.
Non, c'est ça, c'est que ça fait référence, parce que c'est le seul, c'est vrai que Vincent le mérite hein, de cravacher pour justement passer dans le mainstream, hein, parce qu'avant on ne passait pas du tout, mais voilà, mais du coup ça donne une image, une certaine image. Alors qu'au départ, je confirme à Christian, au départ c'est un ingénieur qui est arrivé à la décroissance un peu comme tous les ingénieurs, c'est-à-dire par l'aspect physique des choses,
ah oui.
Par l'aspect, même si après c'est un diplomate aussi, il a quand même les doubles casquettes politiques et ingénieurs, mais il est arrivé dans la décroissance comme certains, pas comme Chenet, pas dans le milieu financier, pub ou politique, pas du tout. Et on a l'avantage d'avoir quand même un Vincent Liéger, ingénieur, qui vendait le pétrole, la fête est finie, là, de Zandberg, je sais plus de qui, à Allemand, là, sur les stands, dans différents trucs. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'à un moment, il a choisi une autre com. Choisi vraiment, parce qu'il connaît tous les problèmes, tout ce qu'on est en train de dire, il le sait. Donc il a choisi une autre com de façon politique ce coup-ci, et c'est ça le problème. C'est pas que le bouquin avec des petites critiques comme ça, c'est que ça donne un certain ton parce que c'est le seul interlocuteur en ce moment de la décroissance dans les médias, pour résumer.
Oui, le parcours de Vincent, il est emblématique, parce que comme tu dis, c'est un ingénieur, il part sur Reagan, donc il part sur la décroissance inéluctable, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il veut faire carrière. Donc il s'aperçoit que il y a un discours, il le dit très bien, je vais vous donner, enfin je crois que je l'ai déjà communiqué, le lien de cette vidéo et le moment où il le dit. Bon, il s'aperçoit à un certain moment que quand on parle des croissances inéluctables, quand on parle fin du pétrole, parce que la fin du pétrole c'est quand même le point d'achoppement, eh bien, on a moins de militants. On a moins de militants. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la juste analyse, c'est pas de dire la vérité, c'est pas de poser des choses qui pourront être mises en perspective ensuite, dans l'avenir, par rapport à ce qui se passe réellement, c'est de, au moment présent, d'accroître sa militantèle. Et donc, il dit les choses qui marchent. Il dit alors, il y a un créneau, bon, c'est une niche, en termes marketing, on appelle ça une niche, mais c'est les niches, c'est extrêmement rentable. Bon, voilà, donc il y a une niche de gens qui ont envie d'entendre que on va pouvoir décroître, que ça va être le bonheur et que tout ira bien. Ils ont envie d'entendre ça. Bon, il y a une clientèle pour ça. Bon, il y a un marché pour ça. Donc on fabrique le produit, c'est du marketing, c'est l'ABC du marketing. On fabrique un produit parce qu'il y a une demande. Et c'est ça qui est grave. Alors, effectivement, rien à voir avec Michel Pesant. Lui, c'est un intello, il est prof de philo, donc... mais Vincent, lui, c'est voir qu'il réponde de ses agissements, parce qu'il démarre sur, disons, un credo qui est un credo physique, et il termine sur le prêche du curé.
Oui, mais en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus lui reprocher de faire une proposition autour de la dotation inconditionnelle qui serait un cheval de Troie pour en fait éloigner les gens du surtravail et essayer de faire en sorte que du coup, c'est un peu l'analyse rapide, mais sur la dotation inconditionnelle, c'est un peu l'idée que on soit moins dépendant au travail et qu'on retrouve un plaisir de vivre sans forcément consommer ni on va dire surinvestir dans son travail en étant, c'est un peu l'esprit de la dotation inconditionnelle et du pari. Donc je pense qu'il en parle dans le livre probablement. En tout cas, c'est une proposition concrète, c'est-à-dire que lui, son point de vue, c'est de dire voilà, il fait le pari de la conscientisation collective. On va dans le mur et
non.
Que politiquement on peut se mettre d'accord pour réfréner et mettre en place des outils, voire même peut-être des contraintes, je ne sais pas ce qu'il dit là-dessus, mais en tout cas des outils qui nous permettent de faire évoluer ou de faire un pas de côté dans le système métro boulot dodo quoi. C'est un peu, mais bon.
Voilà. Moi j'ai deux choses. Alors c'est son cheval de bataille, hein. De toute façon le revenu inconditionnel. Mais là-dessus, il y a un premier truc déjà, c'est qu'on sort de 2 ans de revenu inconditionnel un petit peu contraint. On en voit les effets pervers qui arrivent actuellement. Bon, ils sont cumulés avec les problèmes énergétiques, mais du coup, il y a l'inflation, etc., et des gens qui ont pas forcément envie de revenir au boulot, mais où il y a pas plus de, qui veulent continuer à garder le train de vie, donc il y a un effet pervers, c'est un moins. Je sais plus ce que je voulais dire après sur son truc. Oui, et puis en plus, il parle pas d'évolution dans un monde contraint, quoi. C'est une démarche volontaire, un revenu volontaire, mais dans un monde contraint, il faut travailler de ses mains. Et ça, il n'en parle pas.
Ouais, alors, la question de la DIA, là, parce que lui, il appelle ça dotation inconditionnelle d'activité, j'en ai évidemment, c'est un chapitre entier du bouquin, j'en ai pas parlé parce que c'est encore pire que tout le reste. Bon.
Juste ce que je voulais dire, voilà, c'est que son ralliement au Parti Socialiste, c'est consigne de vote. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est pour Jadot ou. Oui, c'est pour Jadot.
Pour Taubira.
C'est son ralliement est la preuve aussi que sa décroissance, c'est une décroissance de gauche, avec un O.
Le pauvre.
Non, mais. Juste un mot sur le revenu, parce que là, le revenu conditionnel, on en a déjà parlé. Au moment où Nora Meptouche s'était proposé. Bon. Le revenu conditionnel, c'est très bien. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec la décroissance. Enfin, en tout cas, le lien que les décroissants, façon l'IEG, font entre le revenu inconditionnel et la décroissance n'est jamais explicité. Bon, c'est là que, disons, il y a aussi un problème supplémentaire, je dirais, d'imposture. En fait, ça montre que cette revendication, en fait, c'est une revendication. Ce revenu, on le demande à l'État. On demande à les superstructures de nous fournir un revenu. Bon, pourquoi pas? C'est une posture revendicative, typiquement de gauche, sursocialisante. Pourquoi pas, encore une fois? Bon, on est à la gauche de la gauche traditionnelle, revendicative, par rapport au maître du pouvoir qui fabrique l'argent et à qui on leur demande de nous en donner. Mais il faut qu'on nous explique le rapport avec la décroissance.
Il n'y en a pas, parce que c'est ce moment-là où je suis parti du PPLD, c'est au moment où il a changé de titre.
Oui,
il a fait la communication que là-dessus, au lieu de le faire sur la décroissance.
Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on agite. Il y a un mot qui marche maintenant, c'est décroissance. On l'agite et ça nous permet de vendre, en fait, une revendication, qui est une revendication typiquement de la gauche politicienne.
Donc, non, mais à l'époque, c'était l'inverse. Hein. C'est comme la décroissance ne marchait pas et qu'on commençait à parler du revenu universel, qu'ils ont basé leur titre de bouquin là-dessus, quoi. Au lieu de faire un bouquin sur la décroissance, ils l'ont appelé le revenu de je sais pas trop quoi. Mais rien que le mot déjà inconditionnel, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on peut être à l'infini sur Terre de façon inconditionnelle. C'est-à-dire sans tenir compte des conditions extérieures, tout le monde peut faire tranquillement. Il y a un problème rien que dans le titre par rapport à la décroissance.
Le titre, il est très fort. C'est dotation inconditionnel d'activité, c'est-à-dire dotation, c'est vraiment une dotation, c'est quelque chose qu'on donne. Inconditionnel, c'est sans condition, aucune condition. Effectivement, même si on est contraint qu'on est une société où il y a plus rien pour faire marcher aucune machine, il faut quand même l'avoir, c'est inconditionnel. Hein, voilà. Et d'activité, on peut dire que c'est inconditionnel d'activité, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'activité, On doit toucher à la dotation. Mais bon, le problème, c'est le fait de s'abriter derrière la décroissance pour vendre ça. Le concept de revenu universel, bon, c'est pas eux qui l'ont inventé. Pratiquement dans tous les partis, hein, et ça depuis maintenant 10, 15 ans, voire 20 ans, bon, il y a des projets de dotation inconditionnée. Parce que le capitalisme, il s'est rendu compte que c'est un truc qui pouvait lui être utile. ça peut être utile de filer une petite aumône permanente pour acheter la paix sociale, et puis finalement, s'il y a des feignants qui ne travaillent pas, bon, ça permet aux autres de mieux travailler. Bon, ça peut être défendu également à droite, ça, à la droite politicienne. Bon, donc, c'est une idée qui n'est pas une idée spécialement de gauche, et d'ailleurs je pense même que les idées de revenus inconditionnels sont des idées qui viennent plutôt des néolibéraux. Bref, toujours est-il que c'est emblème, cette figure de proue, cette revendication emblématique des décroissants façon liégeais, c'est pour moi la preuve ultime, la preuve définitive que c'est une démarche politicienne qui n'utilise le mot décroissance que comme prétexte à une revendication socialisante. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tous les coups sont permis, hein.
Et ouais, on n'y parle pas de contraintes qui vont nous arriver, donc les contraintes énergétiques, etc. Et non plus du fameux syndrome de la reine rouge, de la compétition entre pays. Et il faudrait donc que tout le monde agisse de la même manière et arrête de se battre sur les ressources. Donc ça aussi, c'est un petit peu utopique.
Oui, alors, ce qui est sous-tendu partout et pratiquement jamais prononcé, c'est le mot planification. Parce que lorsqu'on dit « il faut qu'on réfléchisse », là, je vois qu'est-ce que c'est que la décroissance ? La décroissance est une invitation à un débat de fond sur le sens que l'on souhaite donner à notre vie. Mais enfin, chaque fois qu'on essaye de trouver une explication à cette phrase philosophique dans les pages qui suivent, eh bien, la réponse est planification. Voilà. Planification à tous les niveaux. Par exemple, faire l'inventaire, je ne sais plus quelle page, faire l'inventaire de nos besoins. Voilà. Alors, y a un comité qui va décider, on a besoin de ça, mais ça, on n'en a pas besoin, donc on va décider. Et puis, ça se fait au niveau mondial. Donc, on est dans à la fois le fantasme de l'hyper-planification, hein, donc du Big Brother qui va penser pour tout le monde. Voilà. Et puis, parce que, voilà, Big Brother va dire, non, c'est démocratique, mais il n'y a pas une ligne sur la démocratie. Si, il y a le mot démocratie, il faudrait aller vers plus de démocratie, mais on a dans les écrits qui sont relatifs à cette mouvance, absolument rien, mais rien de rien, sur la façon dont il faudrait arriver, parce que si c'est pas un Big Brother qui décide ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, ça devrait être décidé par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire la démocratie directe, absolue, celle que nous on propose. Bon, mais ça on ne le retrouve nulle part. Non seulement on ne le trouve nulle part, mais l'inspirateur numéro un de cette mouvance, c'est-à-dire Serge Latouche, bon, Serge Latouche il a écrit dans plusieurs bouquins, dont je ne me souviens plus le titre exact, je vais dire le bouquin où il dit ça, c'est qu'il est contre la démocratie directe. Hein. Il dit il faut se méfier de ce que peut décider le peuple si on lui donne la parole, et il vaut mieux qu'il y ait une expertocratie qui sache mieux que lui ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc il faut voir que Latouche, c'est quelqu'un qui est contre la démocratie directe. Il l'a écrit.
Ça dépend dans quel contexte effectivement elle se met en place. Disons que bon, la critique de la planification, elle est aussi difficilement entendable que le pari que la démocratie directe fera évoluer les choses dans le bon sens. C'est vu de loin et rapidement comme ça. Il faut étayer les arguments pour dire la supériorité du concept de démocratie directe vis-à-vis de la décroissance par rapport à la planification qui est un acte volontaire, alors que la démocratie directe, est-ce qu'on sait vraiment où ça va nous mener ?
On ne sait pas du tout.
La décroissance peut-être, mais est-ce que c'est certain ?
Non, mais je n'ai jamais dit, il n'y a aucun tenant de la démocratie directe qui dit la démocratie directe, ça va nous donner des bonnes choses. On n'en sait rien. L'argumentation de la démocratie directe, c'est pas avec la démocratie directe, on aura
des contre. Oui, d'accord, oui, c'est juste l'idée que ça nous permet de gérer la décroissance inéluctable puisqu'elle est inéluctable.
La démocratie directe, c'est la seule qui est légitime, point final.
Qui est légitime, oui, d'accord.
Voilà. Bon, la démocratie directe est la seule qui est légitime en fonction, à partir du moment où on énonce les principes de la légitimité d'une décision. Voilà, après, ce qui sortira de la démocratie directe, personne ne le sait. Et c'est toute la différence entre faire de la politique en fabriquant des mesures dans l'objectif d'obtenir quelque chose, donc on fait sa cuisine, on fabrique ses mesures pour obtenir quelque chose, et puis la politique qui consiste à partir de principes, de principes qui sont des principes, disons, d'organisation collective, et puis, de dire, c'est cette organisation-là qui est légitime, et il en sortira ce qu'il en sortira. Et puis, de toute façon, il y a toujours, on peut toujours se rattraper avec la maxime d'Einstein, on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Le mode de pensée qui a créé la situation dans laquelle on est, c'est le mode de pensée auquel ne veut pas toucher Vincent Liégeais, c'est-à-dire l'oligocratie capitaliste. Alors, bon, si, on est obligé. On est obligé de faire autrement. On est obligé de faire autrement parce qu'elle nous a créé un problème et qu'on ne peut pas régler le problème avec le même mode de pensée. Donc il faut un autre mode de pensée. Donc ça fait un argument de plus pour sortir de ce système. Et à aucun moment dans le livre, on ne parle de sortir du système oligocratique capitaliste. Hein, à aucun moment. Le capitaliste, il n'en parle pas.